Bonjour Marine, donc nous sommes dans ce magnifique atelier design. Je voudrais qu'on revienne sur Chromaverse. Quelle a été la genèse du projet ? Parce que à la lecture du film, on s'interroge sur les moyens qui ont été consacrés à le budget, les moyens qui ont été consacrés, et surtout, d'où est partie l'idée ?
Alors moi, je suis designer de formation. Je suis également fille d'architecte, donc c'est de déjà je viens de cette culture-là, donc de l'objet, mais également de l'architecture. Et depuis 3 ans, j'investis un champ de recherche grâce à une bourse de recherche en design qui s'appelle la bourse Agora pour le design. Je travaille sur les couleurs de la lumière. Effectivement, si beaucoup d'artistes, de designers ou d'architectes d'ailleurs ont investi le champ de la couleur, comme par exemple Le Corbusier avec la polychromie architecturale, il s'agit le plus souvent de la couleur comme matière. Et je me suis dit qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup de moyens pour colorer la lumière, mais on n'a pas, en tant que designer ou artiste, commencé à structurer des gammes, à faire comme on a fait dans la couleur matière ou comme le font les industriels, par exemple, dans la cosmétique. Structurer des gammes, nommer les couleurs, etc. Donc je me suis dit, voilà, c'est un champ de recherche intéressant qui est particulier au design parce que c'est un sujet que probablement seul un designer ou un plasticien peut s'approprier. J'ai commencé à travailler autour de ce thème, donc des couleurs de la lumière. Et donc c'est là que j'ai commencé à travailler à travers plutôt des objets, des matériaux qui me permettaient de colorer la lumière, des technologies comme la LED, etc. Et Chromaverse s'inscrit dans le prolongement de ce travail, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une résidence d'écriture à Arles il y a 2 ans, une résidence d'écriture autour des médias immersifs, et que j'ai voulu inscrire aussi dans ces recherches. Donc je me suis dit, comment tirer parti de la réalité virtuelle, de ces nouvelles technologies qui permettent également de produire de la lumière colorée pour parler de ce thème et de cette question. Et donc en parallèle de ça, je travaillais beaucoup sur des objets. J'ai fait une exposition à la Villa Savoie. J'ai pu présenter aussi des objets au Salon du Meuble de Milan. Ce sont vraiment des contextes naturels pour un designer. Et je travaillais également sur cette expérience en réalité virtuelle. Et donc j'ai voulu profiter vraiment de ce que me permettait la réalité virtuelle, c'est-à-dire changer d'échelle, puisque finalement je me retrouvais dans un espace où je n'avais plus de contraintes physiques et même, je dirais, matérielles et même budgétaires dans la mise en œuvre des espaces que je pouvais investir. Donc je me suis complètement affranchie en termes d'échelle de ce que je faisais auparavant. Et j'ai voulu également investir justement le champ de l'espace, de l'architecture, et essayer de développer différentes mises en scène, en fait, un peu comme des mises en scène de théâtre, dans lesquelles c'est plus la lumière qui est au service de l'architecture, mais c'est l'architecture qui est au service de la lumière. Voilà, donc c'est Chromaverse, c'est finalement d'abord un peu comme des multiples décors de cinéma ou de théâtre qui s'articulent les uns entre eux, les uns après les autres, qui vont justement se transformer pour passer d'un décor à un autre et qui vont présenter différents aspects de la lumière colorée, qu'elle soit sculptée à travers des arches, qu'elle se réfléchisse sur justement des colonnes doriques ou qu'elle soit filtrée à travers des panneaux translucides. Voilà, c'était ça l'exercice, en fait. C'était vraiment le même exercice que j'ai pu faire dans les objets, mais à l'échelle de la réalité virtuelle.
Bien, comment s'est écrit le scénario qui déploie quand même tous ces univers les uns après les autres ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu effectivement la phase, la résidence d'écriture qui là, a permis de poser une première intention globale, notamment aussi le nom du projet, alors ce qui fait écho d'ailleurs à une époque où on parlait encore beaucoup du métaverse, et c'est parce que justement c'était la thématique de la résidence que j'étais arrivée avec ce titre de Chromaverse. Donc il y a une première étape, le scénario s'est beaucoup écrit en aller-retour entre de l'écriture, comme on fait dans un film, mais surtout beaucoup de prototypage, beaucoup d'expérimentation. Encore une fois, c'est la méthode du design, on fait plus qu'on dit, et donc du coup très vite, très tôt, il y a eu des premières expériences qui ont notamment qu'on retrouve dans le film aujourd'hui, comme par exemple une scène que pendant très longtemps dans l'écriture on a appelée le phare, qui est une scène où on est plongé dans le noir et où il y a juste des faisceaux de lumière autour de nous. Et cette scène, on l'a prototypée très tôt avec des développeurs spécialistes que j'avais recrutés au studio, et avec Stéphane qui est le producteur de l'œuvre également. Et donc ça nous a permis de poser des premières briques de la grammaire qu'on voulait développer. Et puis ensuite, ça s'est fait également à quatre mains, puisque j'ai travaillé avec une co-scénariste qui m'a aidée à mettre bout à bout toutes les idées, tous les éléments qu'on avait agrégés dans cette phase de recherche. Elle m'a aidée à l'articuler pour en faire quelque chose de cohérent et de fluide, en fait. Donc, elle a justement vu dans tous ces éléments quelque chose qui pouvait se mettre de manière circulaire comme ça, enfin, c'est presque comme des couches d'oignons qui se déploient, l'espace qui se déploie comme un oignon dont on sort quelque part. Et puis il y a aussi eu le dialogue avec les modeleurs 3D qui ont construit l'espace. Donc c'est un scénario, mais c'est aussi une architecture. Donc du coup il y avait aussi un aller-retour entre des plans que moi je fournissais aux modeleurs, des schémas, des élévations comme un architecte, et puis lui, la mise en lumière, la mise en scène, la mise en volume dans la 3 dimensions, dans la 3D, dans le logiciel 3D de ces plans. Donc c'est pas une écriture linéaire, même si à un moment on a posé un scénario, un storyboard complet de l'œuvre pour pouvoir donner aux développeurs et avoir un document de travail et partage, comme c'est le cas dans les réalisations de films. Le storyboard est un outil de collaboration. Mais le contenu s'est fait de manière assez empirique et pas, je dirais, pas de manière totalement linéaire. Voilà. Et très collaboratif aussi. Mmh. Voilà.
Et quelle est la part de ce qui t'appartient en propre dans l'envie, dans le désir, dans la réalisation, dans le montage ? Qu'est-ce qui fait écho à ta propre histoire et qui fait que tu as porté ce projet pendant quelques temps, deux ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait ça et pas autre chose?
En fait, c'est des moments assez particuliers, un peu comme un réalisateur peut le raconter dans un travail de mise en scène, finalement. Effectivement, comme il y a beaucoup de collaboration, il y a des fois des choses qui nous échappent ou en tout cas qui nous sont données, quelque part. Mais ce qui m'appartient, c'est effectivement alors la dimension contemplative. Ça a été, je dirais, presque un combat. Parce que... Ça va, ça s'est éteint. C'est bon. Je dirais que c'est plus un combat. Parce que dans le dialogue avec tout un tas de gens qui sont plutôt dans l'univers de la VR et qui parfois viennent peut-être soit du cinéma, mais avec des référentiels très liés à la science-fiction ou films d'action, ou des gens qui viennent plutôt du monde du jeu vidéo... Il y a eu beaucoup de choses qui étaient mises par tout le monde dans cette expérience, et donc moi, mon rôle, ça a plus été effectivement de retirer un certain nombre d'éléments pour arriver à cette forme d'épure, même si on n'est pas totalement dans l'épure, mais voilà, à une forme de contemplation. Par exemple, il y a eu un moment où on a retiré toute forme d'interactivité dans l'expérience, c'est-à-dire d'action de l'utilisateur pour modifier l'environnement, etc. Et ça a été une décision que j'ai prise voilà, qui structure aujourd'hui l'expérience telle qu'elle est, et qui fait qu'effectivement, en tant que spectateur, on est vraiment plus invité à être transporté, mais pas à se déplacer soi-même. Voilà. Il y a eu des choix très pragmatiques et techniques, mais très fondamentaux au départ dans l'expérience, notamment le fait de retirer les manettes, parce qu'en fait, aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, en tout cas celui qu'on a choisi, il est proposé avec des manettes, donc on aurait pu tirer parti aussi de cette capacité d'action que proposent les manettes. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit le corps qui soit en déplacement dans l'espace, et donc retirer aussi la contrainte des manettes. Et après, esthétiquement, moi, c'est là où j'ai apporté tout mon référentiel architectural, artistique, toutes les expériences, moi, architecturales et spatiales que j'ai pu faire dans ma vie et qui m'ont beaucoup marquée, comme effectivement des œuvres comme le travail de Turel ou le travail de Nishizawa à Naoshima, qui sont des expériences vraiment esthétiques que j'ai pu vivre et que j'ai voulu finalement transposer dans ce projet. Presque imité avec modestie, quoi. Voilà, parce que transposer même la réalité de ce qu'on a vécu dans la réalité virtuelle, il faut réussir à le traduire avec cette technologie, avec la technicité que ça représente, etc. Donc ça m'appartient. Et après, il y a effectivement des choses qui sont de l'ordre plutôt du son, de la musique, qui ont été, sur lesquelles j'ai moins d'éléments de référence, qui ont été plutôt nourris par le reste de l'équipe. Et voilà, la direction globale, c'était de faire quelque chose de contemplatif, de spatialiser, c'était en référence à l'espace qui était proposé, mais c'est plutôt le compositeur qui a apporté effectivement ça, Romain et Jean-Philippe, qui ont apporté tout leur univers esthétique aussi dans cette partie sonore. Ouais.
On a l'impression de léviter un peu quand on est dans le film, donc d'avoir une espèce de voyage immersif dans un autre univers. Quel lien ferais-tu avec cet univers et le passage à la lévitation ou carrément de l'autre côté du miroir, comme je l'évoque?
Alors c'est vrai que depuis quelques jours, on a beaucoup de personnes qui font l'expérience, enfin qui visionnent le film, comme tu le dis, et on a ce retour de sensation, enfin de mise en méditation, presque de voyage introspectif. Alors c'était pas forcément une intention au départ, enfin on aurait pu le souhaiter, mais ça aurait été très ambitieux, donc on est content moi je suis contente d'avoir ce genre de retour, en tout cas que toute expérience esthétique, ce qu'on recherche en tant que créateur, artiste, c'est de toucher les gens et qu'en tout cas ils vivent quelque chose, même si ça dépasse l'intention initiale. Donc ça, c'est plutôt un succès. Moi, effectivement, ce que je voulais, quand je dis tirer parti des possibilités offertes par la réalité virtuelle, par cette technologie, parce que ce qui m'intéresse en général, c'est dépasser la technologie pour ce qu'elle est, c'était ça, c'est-à-dire dire ok, on est capable de mimer le réel, et dans le cadre d'un projet qui touche à la couleur et à la lumière, c'est déjà un challenge technique assez fort, mais surtout l'intérêt de ces technologies-là, c'est de nous amener ailleurs, c'est-à-dire dépasser le cadre de ce qu'on peut vivre dans une expérience physique, de si on allait effectivement au Japon, à Naoshima, ou vivre s'immerger dans une œuvre de Turel. Et donc effectivement, il y a des éléments dans l'œuvre qui sont de l'ordre du surnaturel, presque, mais tout en étant ancrés quand même dans des référentiels qu'on connaît. C'est-à-dire on n'est pas totalement dans un monde complètement onirique, déconnecté du réel. Il y a des aspects physiques qui sont très réalistes. Mais effectivement, cet effet de flottement, il est lié au fait qu'on se déplace sur une surface sur laquelle, sur l'eau, alors qu'on ne pourrait pas marcher sur l'eau, par exemple. Il est lié au fait que l'architecture, elle va se transformer. Et comme on est vraiment immergé dans cette architecture, voir le bâtiment se déplacer autour de nous, c'est quelque chose qu'on peut voir dans un film d'animation, d'habitude, qu'on pourrait voir au cinéma, dans des effets de science-fiction. Mais quand on le voit, on a l'impression d'une réalité qui se transforme complètement autour de nous. Effectivement, ça joue encore plus sur le sentiment de rêve et de déplacement de l'imaginaire, quoi. Donc ça, après, c'est plus aux gens de me dire ce que ça leur fait, mais c'était quelque chose de recherché, oui. Presque, moi je compare ça à un décorateur, enfin un metteur, pas un metteur en scène, mais un scénographe au théâtre. Et je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs de Bob Wilson, de d'autres scénographes au théâtre qui ont ces scénographies qui se transforment. Et je voulais vraiment créer cet effet d'être à l'intérieur de la scène de théâtre et en même temps d'avoir une scène qui va se transformer au fur et à mesure du déroulé de l'histoire. Mais se dire finalement, d'ailleurs c'est ce que la VR fait, c'est change complètement la position du regard, on n'est plus face à une scène, on est à l'intérieur de la scène, et donc qu'est-ce que ça veut dire en termes d'architecture, en termes de mouvement de l'architecture, ça change complètement le point de vue. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi, le point de départ de l'expérience, on est devant un écran, à l'intérieur de l'expérience, mais devant un écran, et je voulais vraiment montrer cette transition de la 2D à la 3D. Et en fait, il y a vraiment ce passage de, on est devant un écran, comme si on regardait un film immergé, et tout d'un coup, cet écran devient l'espace autour de nous. Et c'est vraiment histoire aussi de ce que raconte la réalité virtuelle, finalement, de dire, mais en fait, on plonge dans l'espace. Et donc, ça demande effectivement des compétences non plus seulement d'image, mais d'architecture, en fait, pour construire un film dans la réalité virtuelle. Voilà. C'est tout ça que j'ai mis dans le film.
Ok. Le film a été présenté très récemment, donc quel est le retour du public sur cette proposition immersive?
Alors, on a vraiment, tu l'as découvert vraiment dans les premiers, on l'a fini on va dire, une semaine, 10 jours, et on l'a présenté la semaine dernière, pendant 4 jours, de manière exclusive au studio. Et alors, on s'adressait au départ, pour cette première, ce premier visionnage, à un public qu'on pensait plutôt professionnel, parce qu'on visait les gens du secteur de la VR ou du design, puisque c'est notre réseau. On a eu la bonne surprise de pouvoir accueillir finalement beaucoup de grands publics, parce qu'on a été relayés via un média grand public. Et du coup, les retours sont très variés, puisque ça dépend un peu du point de vue des spectateurs. Mais pour ce qui est du grand public, bah, effectivement, bon, tout le contexte lié à la recherche est présenté, mais c'est effectivement un voyage. C'est effectivement quelque chose qui met les gens dans un état d'apaisement. Donc il y a un effet physiologique et mental qui est constaté, alors qu'il faudrait approfondir pour vraiment le valider scientifiquement. Mais ça, c'est effectivement un retour. Et après, esthétiquement, les gens qui ont plus la capacité de formuler, de voir une symbolique, etc., ils voient effectivement quelque chose de plus symbolique, effectivement, d'un voyage intérieur, de presque une dimension narrative que moi, j'ai pas du tout voulu mettre au départ, mais qui se présente quand même parce qu'il y a différents tableaux et il y a quand même une progression dans l'expérience, dans le voyage. Donc les retours sont très positifs. Et après, sur les professionnels, que ce soit les professionnels de la couleur, il y a vraiment... ils retrouvent justement une dimension pédagogique, une dimension... Ils retrouvent des choses qu'ils ont du mal à communiquer à leur entourage sur qu'est-ce que la couleur de la lumière, justement. Et puis, pour ce qui est des professionnels de la VR, ils apprécient la qualité et l'aboutissement du travail, ce qui est une belle reconnaissance, parce que, voilà, moi, c'est la première œuvre en réalité virtuelle que je réalise et qu'on produit au studio, donc le travail est récompensé, voilà.
Et quelle est l'exploitation éventuellement future de ce travail?
Là, la première étape qu'on est en train de développer, c'est de justement le présenter donc au public et puis via des festivals pour essayer justement de le faire connaître un peu plus largement. Et la discussion s'entame aujourd'hui. Enfin, on va essayer d'entamer les discussions avec des gens qui pourraient prendre en charge une distribution. Mais c'est vraiment le début. Et voilà, je suis preneuse de conseils et d'accompagnement sur ce volet-là. Nous, on l'a vraiment fait comme un espace de recherche et de création en tant que tel. Et maintenant, s'ouvre l'étape de diffusion qu'on va prendre en charge dans une certaine mesure à l'agence, et puis qu'après on essaiera de confier à d'autres si ça intéresse d'autres personnes, et sinon ça fera partie du catalogue et de la recherche en tant que telle qu'on mène ici et qu'on pourra présenter ailleurs dans des expositions et au complet. Voilà.
Merci Marine.
Merci à toi Pascal.